Kiosque Magazine.
Jeudi 16 juillet, une belle journée sur Montréal. Enfin, quand je dis belle, j'ai l'impression qu'on nous a volé l'été quelque part avant hier soir. Là, ça a baissé 10 degrés d'un coup et c'est pas revenu. Mais bon, on va quand même vous parler d'économie d'emploi puisque c'est notre mandat. Quand je dis notre, je parle évidemment d'Éric de Belval et de moi-même, François Brodeur, qui allons vous accompagner au cours de la prochaine heure. Éric, qu'avez-vous prévu?
Alors, François, vous savez qu'il faut parfois donner la parole au prix Nobel d'économie. Beaucoup ont asséné d'incroyables âneries. L'économiste Bernard Maris en a fait un inventaire. Mais parfois, il faut les écouter. Et il y avait une conférence il n'y a pas longtemps à Paris sur le climat. Et le prix Nobel Joseph Stiglitz a répondu à des questions d'un journaliste du Monde fort intéressante. On en parlera. Alors ensuite, je vous propose de nous demander quand sera la prochaine crise. Voilà une question qui est dans tous les esprits de la Banque mondiale, mais aussi de chaque citoyen. La réponse, elle est dans beaucoup d'études économiques qui ne s'accordent pas toujours entre elles. Alors on sait ce que c'est que la prévision économique et on se redemandera si on peut compter sur elle pour savoir quand c'est la prochaine crise.
Mais la réponse est facile à ça, c'est hier. C'est juste que la plupart des gens ne savent pas, ils n'ont pas commencé à mettre leur argent à l'abri.
Hier et avant-hier peut-être.
Oui. Bon.
Et puis pour terminer en ce qui me concerne, on se reposera alors une question qu'on a déjà évoquée ici, mais ô combien importante, combattre plus fermement l'optimisation fiscale des multinationales. Vous savez, les pays en développement sont les premiers perdants au jeu de l'optimisation fiscale par les multinationales. L'OCDE fait ce qu'elle peut, elle tente de faire avancer le dossier, mais elle ne va pas assez loin. Par exemple, il faudrait imposer une publication des impôts payés dans chaque pays, ça serait un bon début.
Et pour ma part, on vous parlait de la Grèce la semaine passée. Voilà, on vous parle toujours de la Grèce. On peut penser que le drame a connu son dénouement cette semaine. On verra que pour les Grecs, en tout cas, il n'en est absolument rien. Et on revient sur ce sujet un peu plus tard. Donc, on parle aussi de syndicalisme à la faveur d'une candidature républicaine américaine et de ses lois fantastiques sur le syndicalisme aux États-Unis. Et c'est une occasion pour nous de réfléchir à ce que devient ce mouvement. Mais d'abord et dans quelques instants, Jean-Robert Sansfasson du Devoir s'interroge sur ce qu'il faut penser de la dernière baisse du taux d'intérêt de la Banque du Canada. Tout ça, ça commence dans quelques instants. Oui, alors la Banque du Canada a de nouveau abaissé son taux directeur. Et là, quand je dis abaissé, entendons-nous bien, là, il était déjà à 1,5 de 1%. Non, il est à 3/4 de 1%, pardon, il est maintenant de 1,5 de 1%, ce qui laisse très, très peu de latitude si on veut l'abaisser à nouveau. Jean-Robert Sansfasson s'interroge sur le phénomène et nous en profite pour dresser un portrait de la situation au Canada. C'est un texte paru dans le Devoir d'aujourd'hui, en fait. Pour la deuxième fois cette année, la Banque du Canada réduit d'un quart de point à 1,5 de 1% le taux d'intérêt qui sert de guide aux transactions quotidiennes entre les banques. Ce faisant, la Banque du Canada prend le risque de voir le niveau d'endettement des ménages grimper d'un cran, un risque qu'on espère bien calculer. Pour certains économistes et même pour le courtier immobilier Royal LePage, il est dangereux que la Banque du Canada envoie de nouveau le signal d'une baisse des taux d'intérêt compte tenu de la surchauffe du marché immobilier dans certaines villes comme Toronto et Vancouver. Pour le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, ce risque existe, mais le plus important est d'éviter une récession dont il refuse de dire le mot. Oui, d'ailleurs, ça, c'est le tabou au Canada. On est techniquement en récession, probablement à 95% à partir du mois prochain, mais on ne peut pas dire le mot parce que c'est mal vu, parce que ça fait peur aux gens. La Banque centrale avoue avoir été trop optimiste l'hiver dernier en prévoyant que la chute des prix du pétrole aurait un effet très limité dans le temps sur l'activité économique du pays. La réalité, c'est que le prix du pétrole restera bas et que les entreprises impliquées dans l'exploitation des ressources ont réduit leurs investissements de 40 % au lieu des 30 % prévus, avec les conséquences que l'on devine sur l'emploi dans l'Ouest canadien. Si l'on se fie aux plus récentes observations de Statistique Canada, le Canada est sans doute déjà en récession, une récession de faible amplitude et qui n'affecte que les provinces de l'Ouest où est concentrée la production d'hydrocarbures. Pour les autres 80 % de l'économie canadienne, la croissance est au rendez-vous à un rythme annuel de 2 % stimulé par la faiblesse du dollar et la bonne tenue du client américain. Dans l'ensemble du pays, l'emploi a cru de quelque 176 000 entre juin 2014 et 2015, surtout en Ontario. Pour l'instant, le Québec profite moins que sa voisine de la faiblesse du dollar et la politique de rigueur du gouvernement Couillard, ajoutée à celle du fédéral, ralentit la création d'emplois. Oui, d'ailleurs, on va le dire ici et maintenant, ça vient d'un autre texte, mais on a perdu 36 000 emplois au cours du dernier mois, ce que le gouvernement Couillard dit ne pas avoir vu venir du tout et ne pas comprendre réellement. Bon. Quant au secteur privé, il subit aussi les contre-coups des décisions des gouvernements dont les dépenses comptent pour près de la moitié du produit intérieur brut, à tel point qu'on peut se demander si la baisse des taux d'intérêt ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Après tout, qui songe à investir quand sa capacité de production est déjà excédentaire par rapport à la demande? De façon paradoxale, c'est peut-être le même gouvernement Harper, opposé idéologiquement à toute intervention fiscale pour stimuler l'économie, qui pourrait, malgré lui, jouer un rôle de régulateur au cours des prochains mois. En effet, il faut s'attendre à ce que la plus grande partie des quelques milliards de cadeaux électoraux consentis cet été aux parents de jeunes enfants sera dépensée rapidement. Bien sûr, Ottawa et les provinces en récupéreront une partie le printemps prochain, puisqu'il s'agit de revenus imposables. Mais d'ici là, l'argent aura fait du chemin. De même en est-il des multiples annonces de subventions aux municipalités pour des projets d'infrastructure. En somme, même involontaire, le timing est bon. Et je rappelle ici que dans les supposés projets d'investissement pour infrastructure, 80 % des projets concernent les 50 % de comtés conservateurs. Au Québec, la première... Je m'excuse, je suis parti particulièrement persifleur ce matin... Au Québec, la première baisse des taux d'intérêt décrétée en janvier dernier n'a pas stimulé l'appétit des acheteurs de maisons déjà très endettés et on observe même une tendance à la baisse de la demande et du prix des propriétés. Voilà une bonne nouvelle puisqu'à l'heure actuelle, le pire des scénarios serait celui d'une chute brutale du secteur immobilier dont on ne pourrait prédire la suite. Il faut souhaiter qu'il en soit de même cette fois encore et que les emprunteurs profitent des taux plus bas pour accélérer le remboursement de leur hypothèque et de leur dette de consommation. Ailleurs au pays, il semble que les acheteurs soient moins prudents, puisque le prix des propriétés, autant que la demande, continue d'augmenter bien au-delà de la capacité de payer des ménages. En fait, ceux qui subiront le plus durement les effets des deux dernières baisses de taux d'intérêt, ce sont les retraités dont les revenus dépendent essentiellement du rendement des titres obligataires et des certificats de dépôt. Alors qu'on leur faisait miroiter une hausse prochaine des taux, les voilà aux prises avec la stagnation de leurs épargnes malgré la hausse constante du coût de la vie. Ceux-là devront prendre leur mal en patience et ralentir leur consommation en attendant des jours meilleurs. Et pendant ce temps, aux États-Unis, Janet Yellen, elle, annonce qu'elle va progressivement commencer à monter les taux d'intérêt, probablement à partir de l'automne, ce qui voudra dire que ça y est, le plein emploi est atteint aux États-Unis et l'inflation a atteint sa cible de 2 %, ce qui serait une victoire considérable pour le gouvernement Obama. À Toronto, cette semaine, il y avait une conférence organisée par les provinces sur le climat. Les provinces l'avaient organisée, c'est une conférence internationale d'ailleurs, les provinces l'avaient organisée parce que le gouvernement fédéral ne s'en mêlait pas assez à leur goût, voilà. On y notait notamment la présence de Al Gore qui est venu dire que c'est possible de changer le climat et l'économie sans nuire ni à l'un ni à l'autre. Il semblerait que Joseph Stiglitz soit du même avis.
Oui, et non seulement il est de cet avis, mais il va encore plus loin puisqu'il pense qu'on pourrait retirer des profits d'une position comme celle-là. Et d'une manière générale, il est toujours intéressant de considérer un point de vue qui va contre les idées en cours ou même les idées majoritaires. Je tenais des propos un peu iconoclastes tout à l'heure. Je vais continuer. Je crois qu'en économie comme ailleurs, se méfier de la tyrannie de la majorité, ça peut être un bon réflexe. Alors, je passe maintenant à la signature du journaliste du Monde, qui d'ailleurs n'avait pas signé. C'est juste quelques questions qui ont été posées à Joseph Stiglitz, et c'est sa parole à lui qui nous intéresse dans cet article. Le défi climatique peut renforcer l'économie. Question. La situation économique actuelle nous permet-elle de lutter contre le changement climatique? Réponse. Je pense que la lutte contre le réchauffement climatique peut renforcer l'économie mondiale. Nous sommes aujourd'hui dans une configuration particulière de déficit de demande. Certains appellent cela la stagnation séculaire. Il y a toutes sortes d'autres noms à ce phénomène, mais tout le monde s'accorde à constater cette faiblesse de la demande qui pourrait persister dans le futur proche. Or, cette faiblesse de la demande engendre une croissance faible aux États-Unis, une quasi-stagnation en Europe et un ralentissement en Asie. Si nous saisissons l'opportunité de réaménager l'économie mondiale pour faire face aux défis climatiques, cela pourrait stimuler l'économie, augmenter la croissance, créer de l'emploi et ainsi diminuer les inégalités, l'autre défi majeur de notre temps. On voit là un éclairage auquel on n'est pas habitué, particulièrement intéressant, me semble-t-il. Question. La croissance telle qu'on l'entend aujourd'hui, une intensification des flux de matière et d'énergie, est-elle compatible avec la question climatique? Je rappelle à cette, avec cette question un corollaire. Lévi-Strauss disait déjà dans les années 60 qu'un des gros soucis de l'humanité, c'était de définir le progrès comme un ratio quantité d'énergie par nombre d'habitants. Et tant qu'on s'évertuerait à faire progresser ce ratio, bien évidemment, les conséquences pour la planète seraient désastreuses. Pour lutter contre le réchauffement, nous aurions à restructurer nos économies. Nous ne produirons pas les mêmes biens, mais en termes de croissance, je ne vois pas de contradiction, même si cela implique une croissance différente. Il faut redéfinir ce qu'est la croissance, changer les méthodes que nous utilisons pour la mesurer, afin qu'elle reflète la durabilité des activités économiques. Mesurer la croissance du produit intérieur brut avant la crise de 2008 donnait de bons chiffres, mais ils sont tombés. Avec des mesures de la croissance reflétant la durabilité, nous aurions une meilleure visibilité. Ah, j'aime ce champ, s'élargit de plus en plus et me plaît encore plus. Question. Les négociations en vue d'un accord à Paris sont-elles bien engagées? Là, on fait allusion à la fameuse conférence sur le climat qui doit avoir lieu en décembre à Paris et qui est censée rassembler un très très grand nombre de participants. Je pense que l'approche du protocole de Kyoto, qui était fondée sur des mécanismes de marché carbone, l'allocation des droits d'émission et des objectifs de réduction basés sur des niveaux antérieurs d'émission, était une impasse. Nous ne pouvons pas atteindre un accord global avec un tel cadre de négociation. L'approche actuelle, celle des contributions volontaires, est bonne, mais elle ne permettra pas d'atteindre l'objectif des 2 degrés. Le 2 degrés, c'était le niveau de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel. Le compromis que je propose est le suivant. Une tarification mondiale du carbone que chaque pays pourrait mettre en œuvre sur son territoire comme il l'entend, par des réglementations contraignantes, par un marché d'émissions ou par une taxe carbone. Il faut ensuite mettre en place une taxe carbone aux frontières afin que les pays fassent payer le coût en carbone des biens qu'ils importent. Une fraction des sommes ainsi collectées par les pays développés pourrait alimenter le fonds vert à destination des pays en développement pour tenir compte de la responsabilité historique du Nord dans le réchauffement actuel. En outre, les pays qui ne répondraient pas à ces exigences de réduction des émissions verraient leurs produits taxés aux frontières en fonction de leur coût excessif en carbone. C'est donc un processus incitatif pour ceux qui se tiendraient à l'écart d'un accord. Je crois que la nouveauté, c'est la corrélation entre le carbone et le produit fini. Mmh. Question, qu'espérez-vous d'un tel accord ? J'espère que l'accord de Paris reconnaîtra la nécessité de travailler dans le futur sur des systèmes de contrôle des engagements. Des engagements pris, bien sûr. Nous avons besoin de tels mécanismes et ils sont favorables aux pays qui considèrent le changement climatique comme un problème important. Si vous vous montrez strict sur les conditions de production des biens dans vos industries, vous devez être aussi strict sur tout ce qui est produit ailleurs et qui entre dans votre pays. Les États-Unis commencent à parler de système de vérifiabilité des engagements. Ce n'est pas très éloigné. Cependant, au point où nous en sommes, je ne m'attends pas qu'il soit inscrit dans l'accord de Paris. Mais il faut avoir à l'esprit que celui-ci doit être vu comme le début d'un processus et d'un mouvement global de la société dont la récente prise de position du pape est un élément.
Je vais vous interrompre ici un instant parce que c'est fondamental cette considération-là. Ça va tellement contre-courant des courants libre-échangistes qui président actuellement à l'activité économique mondiale. Ça consiste à dire ton pays contrôle pas le carbone, donc je taxe tes produits de façon à te pénaliser parce que tu fais pas le travail. Ça serait une idée révolutionnaire et on pourrait l'appliquer à, par exemple, ton pays fait travailler des enfants ou ton pays paye un salaire qui n'a pas d'allure ou... Enfin, voilà.
C'est ça aussi la notion de mutualisation. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de mutualiser simplement les risques et la gouvernance. Il faut aussi mutualiser les effets des actions qui sont menées. A priori, on devrait commencer par l'industrie. Question. La Chine, premier émetteur mondial de CO2, est-elle suffisamment engagée pour lutter contre le réchauffement? Je pense que le gouvernement chinois est très engagé sur la question de la lutte contre le changement climatique, mais il est aussi très engagé dans le développement. La Chine a travaillé avec un certain succès à réduire ses émissions domestiques par point de PIB, mais comme elle a également beaucoup fait grimper son PIB, cela a conduit au total à plus d'émissions. Un des problèmes de la Chine relève de l'attribution des émissions. Faut-il prendre en compte les émissions de ce qui est produit dans chaque pays ou de ce qui est consommé? À mon sens, la responsabilité américaine dans le changement climatique est la quantité de carbone de tous les biens consommés aux États-Unis plutôt que la quantité de carbone émise par la production de biens aux États-Unis. Si nous exigeons de la Chine des produits au prix le plus bas, fabriquée au coût carbone le plus élevé, nous sommes responsables. Et ce problème est typiquement américain, car nous consommons des biens matériels produits dans des pays sur lesquels nous n'avons pas mis suffisamment de pression et avec lesquels nous passons des accords commerciaux sans clause sur les émissions de carbone. Là aussi, je crois que ça met bien en lumière la façon dont il faut corréler les choses. Ainsi, nous encourageons fondamentalement nos citoyens à consommer des biens qui polluent et nous devrions prendre notre part de responsabilité. Il faut mettre en place deux formes de décompte, ce qui est produit dans chaque pays et ce qui est consommé. Et vraiment, si vous avez la possibilité de relire cet article, d'aller à la référence qui est donnée sur le site internet, faites-le, parce que là, il y a une vraie vision, il y a une vraie invitation à un vrai changement dans la perception et dans l'organisation des choses.
Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Για μένα δε σου καίγεται καρφί, πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Στα κέφια σου να φτιάχνω μόνο εγώ, και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις.
Alors, c'était une chanson qui s'intitulait « Au café ». Elle était chantée en grec par une vedette grecque dont je ne vous répéterai pas le nom pour ne pas l'insulter, déjà que le peuple grec souffre assez à cet égard. C'est un choix musical de Rémi Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission. Et vous l'aurez deviné, il s'agit d'introduire les nouvelles sur la Grèce. Et je vais le faire au moyen non pas de un, mais de deux textes. D'abord, un texte de l'agence France-Presse paru dans la presse du 13 juillet. Au terme de près de 17 heures de négociations, marathon, oui. Les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro sont parvenus à un accord sur un éventuel troisième plan d'aide internationale à la Grèce assorti de conditions draconiennes. Et j'ajoute que draconien ici, c'est un mot faible, vous allez le voir. En voici les principaux points. Vu le besoin de rétablir la confiance, considérée comme rompue par le gouvernement de gauche radical d'Alexis Tsipras, la Grèce doit légiférer sans délai. D'ici mercredi, ça s'est fait hier, elle doit rationaliser le système de TVA et élargir sa base pour augmenter ses revenus. améliorer la soutenabilité du système de retraite, assurer l'indépendance de l'Institut statistique Elstat, mettre en place une autorité fiscale indépendante et un mécanisme de réduction automatique des dépenses en cas de ratage des objectifs budgétaires. Je reprends ça dans le détail. Rationaliser le système de TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée, donc ce qu'on appelle ici la TPS ou la TVQ. Élargir sa base, ça veut dire le faire porter sur plus de sujets qui étaient exclus de la TPS ou de la TVQ. Améliorer la soutenabilité du régime de retraite, ça c'est une arnaque, ça veut dire finalement payer moins de retraites pour que les retraites ne soient pas déficitaires. Assurer l'indépendance de l'Institut statistique, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque ça consiste à avoir un vérificateur neutre et indépendant pour connaître le vrai état des choses. Mettre en place une autorité fiscale, et là, c'est là que le bas blesse, un mécanisme de réduction automatique des dépenses en cas de ratage des objectifs budgétaires. Ça veut dire, si jamais le gouvernement grec dépose un budget, que ce budget-là est approuvé par les créanciers, mais que les faits, pour une raison X, Y ou Z, font en sorte que le gouvernement ne peut pas atteindre sa cible, eh bien, il va être contraint par une loi qu'il aura lui-même adoptée à cesser toute dépense de façon à rentrer dans ses cibles. Ça, c'est des coupes paramétriques, peut-être ce qu'il y a de pire pour l'économie. Ces mesures sont impératives pour commencer à discuter d'un plan d'aide. Ensuite, d'ici le 22 juillet, la Grèce doit adopter un code de procédure civile et transposer en droit grec une directive sur le renflouement des banques. On va jusqu'à se mêler des litiges civils. Outre ces préalables, le gouvernement grec doit sérieusement renforcer ses propositions de réforme s'il veut obtenir un accord. Les créanciers exigent un ambitieux programme de réforme des retraites, des réformes plus importantes du marché intérieur, notamment dans le domaine des soldes, des pharmacies, des boulangeries, de l'ouverture des commerces le dimanche. Ils veulent aussi la privatisation du réseau de transport électrique. Ils exigent une modernisation et un examen rigoureux du marché du travail afin d'aligner les politiques de l'emploi et les standards internationaux sur les standards internationaux et européens. Enfin, les créanciers veulent un renforcement du secteur financier. Le gouvernement doit aussi mettre en œuvre un programme de privatisation plus développé à travers la création d'un fonds ad hoc qui a fait l'objet d'âpres négociations. Les actifs grecs de valeur seront transférés à un fonds indépendant qui les monétisera par des privatisations ou d'autres moyens. Ce fonds devra générer 50 milliards d'euros, dont 50 % serviront à recapitaliser les banques grecques au bord de l'asphyxie financière. 12,5 milliards serviront au désendettement et 12,5 milliards à l'investissement. Ce fonds sera basé en Grèce et sera géré par les autorités grecques sous la supervision des autorités européennes. D'abord, les Européens exigeaient que ce fonds-là soit au Luxembourg. La Grèce devra moderniser l'administration grecque et notamment la dépolitiser à travers un programme spécifique. La Grèce doit présenter ses projets sur ce point d'ici lundi prochain. La Grèce doit normaliser les relations avec les institutions, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, y compris lors du travail sur le terrain à Athènes. Ces institutions sont honnies par le gouvernement Syriza et ses sympathisants. De plus, elles auront un droit de regard sur certains projets de loi ou de référendum. La Grèce devra revoir certaines des mesures adoptées par le gouvernement d'Alexis Tsipras qui sont contraires aux engagements des précédents gouvernements grecs. L'ensemble de ce troisième programme pourrait représenter de 82 à 86 milliards d'euros. Les institutions sont invitées à voir comment elles pourraient réduire l'enveloppe des financements. Les chefs d'État et de gouvernement demandent à l'Eurogroupe de trouver une solution transitoire pour permettre à la Grèce de faire face à ses besoins urgents de financement, 12 milliards d'euros d'ici la mi-août, pour lui permettre de payer ce qu'elle doit. Les créanciers estiment qu'il faut prévoir de 10 à 25 milliards d'euros pour les banques en cas de recapitalisation ou de liquidation. L'Eurogroupe est prête à évaluer, si nécessaire, des mesures additionnelles, allongement des délais de grâce et des maturités, seulement si la Grèce a respecté ses engagements. Et on ne dit pas ici rabattre une partie de la dette, ce que le FMI estime incontournable, mais les Européens ne veulent absolument rien savoir de cette possibilité. Le FMI, oui, continuera d'être associé au programme grec, y compris au-delà de l'échéance de mars 2016, date à laquelle il devait s'achever. Et je poursuis en vous lisant l'éditorial de Guy Taillefer du 14 juillet, paru dans Le Devoir. Il dit à peu près tout ce que je pense. La Grèce sous tutelle. 9h lundi matin à Bruxelles. Un accord a finalement été atteint avec Athènes en contrepartie des réformes drastiques. On s'est battu jusqu'à la dernière minute, a réagi le premier ministre grec Alexis Tsipras. Une bataille qui s'est soldée par une capitulation et donc une défaite dans la lutte pour une Europe plus sociale. Voici la Grèce de retour sur le droit chemin, pour reprendre les mots de Donald Tusk, président du Conseil européen. Le droit chemin de l'austérité néolibérale. Or, c'est la victoire d'une Europe qui a un mal fou à se concevoir autrement qu'en termes technocratiques et financiers, et qui craint, comme la peste, tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'idée d'un espace européen plus démocratique et citoyen. Le cœur des Grecs balance entre soulagement et ressentiment à l'issue de cette bataille. Soulagé que le spectre d'un Grexit ait été éloigné, mais ressentiment face à un résultat qui leur impose un plan d'aide aux conditions plus dures encore que celles qu'ils ont rejetées lors du référendum d'il y a une semaine. Partant de l'évidence que la Grèce, son gouvernement et sa population voulaient à tout prix éviter d'avoir à faire le pari d'une sortie de l'euro, les élites européennes avaient beau jeu d'attendre de M. Tsipras qu'il finisse tout simplement par céder. Dans les circonstances, le non-référendaire, pour parlant qu'il fût, n'aura été qu'une tactique de négociation à laquelle Bruxelles, Berlin et consorts n'auront malheureusement pas mordu. Suivant le non populaire, la démission surprise du bouillant ministre des Finances Yanis Varoufakis préfigurait la reddition. Contre réforme sérieuse, a-t-on donc annoncé à Bruxelles, les bases ont été jetées de troisième plan d'aide à hauteur de 80 milliards d'euros sur 3 ans. L'accord n'envisage rien en ce qui a trait à l'éventualité d'un effacement, même partiel, de la dette grecque, qui dépasse les 230 milliards, question que le gouvernement jugeait pourtant cruciale. A tout au plus été évoquée l'éventualité d'un reprofilage par François Hollande ou d'un délai de grâce par Angela Merkel. Est attendu de la Grèce au bord de la banqueroute et qu'elle applique toute une série de mesures fiscales, sociales et économiques, dont les créanciers exigent que certaines d'entre elles soient adoptées par le Parlement grec d'ici à mercredi pour que l'accord tienne. Que l'État ait besoin d'être modernisé pour juguler notamment l'évasion fiscale, un problème qui est d'ailleurs loin d'être exclusivement grec, soit. Mais il est clair, en même temps, que cette mise au pas va longtemps suffoquer la société grecque. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui vont payer. Ceux qui avaient jusque-là réussi à s'esquiver vont passer à la caisse, a déclaré M. Tsipras. Et j'aimerais vous dire, avant qu'on passe à la pause, on pense que c'est terminé. Eh bien non, les conditions sont tellement léonines qu'on peut s'attendre à ce que le dossier grec rebondisse l'an prochain, dans 6 mois, dans 3 ans, mais c'est pas terminé. Restez là!
Écoutez Kiosque Magazine.
Grande récession, crise des subprimes, papiers commerciaux, valeurs adossées, crise grecque. Il me semble qu'on a eu notre lot ces temps-ci de crise économique et pourtant on envisage déjà la prochaine.
Oui, alors est-ce qu'on peut s'habituer aux crises comme on s'habitue, je ne sais pas moi, au cycle des saisons par exemple? La différence, c'est que les saisons, elles ont des rendez-vous avec nous à date fixe. Et puis elles partent, elles reviennent sans causer vraiment de dommages. Pour les crises, sur ces deux plans, on est un peu dans le vague. Alors ça a intéressé Éric Desrosiers, qu'on sollicite souvent dans cette émission, à juste titre, vu son talent. Et dans Le Devoir, du 11 juillet, il nous a fait un article fort intéressant sur la prochaine crise. On n'arrive toujours pas à se convaincre que la dernière crise financière et économique est terminée que l'on envisage déjà celle à venir. Cela fait des semaines que l'on suit avec attention le déroulement du drame grec. Cet intérêt ne vient pas seulement d'un généreux esprit de compassion à l'égard de la population éprouvée, il est aussi nourri par une crainte intéressée que l'affaire dérape complètement et se répercute sur l'ensemble de la zone euro et par voie de conséquence sur l'économie mondiale tout entière. L'attention et l'objet de l'angoisse s'est brusquement déplacé cette semaine lorsqu'il est apparu que les autorités chinoises ne parvenaient pas à endiguer la dégringolade de leur marché boursier. Il y a quelques mois, c'est de l'effondrement de leur marché immobilier qu'on avait peur. Cela fait des années qu'on entend dire que la prochaine crise mondiale viendra de la Chine. Or, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais son économie a grossi trop vite et trop de choses y vont de travers pour qu'elle ne finisse pas par se casser la figure. La prochaine crise, Ne sommes-nous pas en train de nous remettre péniblement de la dernière avec l'économie américaine qui semble toujours incapable de passer à la vitesse supérieure et la zone euro qui semble menacée à chaque instant de déflation ? Les économies émergentes comme la Chine ont rapidement rebondi après la grande récession qui est officiellement censée avoir pris fin quelque part entre 2009 et 2010, mais sont en perte de vitesse. Quant au Canada, il a connu une véritable reprise, mais elle semble terminée aujourd'hui avec ses consommateurs à bout de souffle, son pétrole à 52 $ le baril et son damné client américain qui n'arrive pas à retrouver son air d'aller. De plus en plus d'observateurs pensent même que l'économie canadienne est d'ores et déjà en récession technique avec un premier trimestre négatif et un deuxième qui n'a pas eu l'air mieux. Vous en parliez tout à l'heure, François, on ne dit pas les choses, on ne les nomme pas, mais elles sont bien là. Et il faudrait déjà se préparer à une autre crise ? Chacun a son canard boiteux de prédilection par lequel arriverait la catastrophe. Outre la Grèce et la Chine, on a récemment évoqué le cas du Portugal, de l'Espagne, du Japon et même de l'Allemagne. Pour certains, il ne sert à rien de chercher des coupables. Les cycles de croissance économique durent en moyenne 5 ou 6 ans, ce qui veut dire que les années de vache maigre arrivent. Ironiquement, la principale crainte vient des moyens extraordinaires qui ont été déployés par les banques centrales pour sauver nos économies du pire durant la crise et essayer ensuite de leur redonner un peu d'allant. Avec leur taux d'intérêt au plancher, sinon carrément en territoire négatif, et leur injection massive de liquidités, nos banquiers centraux ont noyé le marché de crédit facile, encourageant d'autant le recours à l'endettement, mais incitant aussi les investisseurs, même les plus prudents, à aller chercher dans des placements de plus en plus risqués les rendements que ne leur offrent plus les bonnes vieilles obligations d'État. Là aussi, on a évoqué le sujet tout à l'heure, on sait qu'on vient de descendre encore d'un quart de taux de base et on a vu les inconvénients. Ici, je crois que Desrosiers nous montre encore à quel point il faut faire très attention parce que là, il y a des risques qui sont pris. L'éclatement de la bulle technologique au début des années 2000 avait mené à une situation similaire qui avait nourri une bulle immobilière aux États-Unis qui s'est terminée avec la crise financière que l'on sait. Les taux d'intérêt ultra bas sont peut-être moins la conséquence que l'une des causes de la faiblesse économique mondiale en raison de leur impact nocif sur la stabilité des marchés financiers, l'endettement et la croissance, a observé le mois dernier la Banque des règlements internationaux, le Forum des banquiers centraux. Je fais une parenthèse. Parce que c'est intéressant cette histoire de crise des années 2000. On sait très bien qu'on a été amené à acheter des maisons avec de l'argent qu'on vous prêtait sans savoir si vous aviez les capacités de remboursement. Pour aller vite, c'est comme ça qu'on crée une bulle. Au moins, quand la bulle éclate, il vous reste des murs, un toit, quelque chose. Même si ça a perdu 90% de sa valeur, ça existe, c'est du concret. Mais quand vous fabriquez une bulle en donnant de l'argent aux gens sans s'occuper de savoir s'ils peuvent répondre, pour acheter des actions qui elles-mêmes, à un certain moment, ne valent plus rien, alors là, on a vraiment fait une bulle tout aussi grosse, mais complètement artificielle. Et on avait peut-être l'exemple de la première pour ne pas se lancer dans la seconde. Ben non, on l'a fait quand même. Une hausse prématurée des taux d'intérêt aux États-Unis risquerait toutefois d'y faire caler l'économie, a répété cette semaine le Fonds monétaire international. Ce que le FMI pense, mais n'a pas dit, c'est qu'elle risquerait aussi de déclencher un retour massif des investisseurs dans le marché américain et d'assécher d'un coup les sources de financement des autres économies, particulièrement celles en émergence. Ce n'est pas temps non plus d'écouter les voix qui réclament un allègement des réformes réglementaires entreprises dans les milieux bancaires, a dit le FMI en fait. Il faudrait plutôt trouver le moyen de les étendre à d'autres acteurs financiers qui ont commencé à prendre de mauvais plis, comme les assureurs et les gestionnaires de fonds. Pour la BRI, Banque des règlements internationaux, il ne faudrait pas se contenter d'artifices pour stimuler l'économie, mais se soucier aussi d'améliorer les facteurs fondamentaux de croissance tels que l'innovation, la main-d'œuvre et la productivité. Belle devise qu'il faudrait d'ailleurs bien appliquer à la Grèce. L'une des grandes craintes est que la prochaine grande crise économique survienne avant que les pouvoirs publics aient pu refaire le plein de munitions. J'allais dire avant qu'ils la voient venir, mais bon, c'était peut-être trop leur demander. Les banques centrales semblent déjà à bout de ressources. Avant que la dernière crise n'éclate, celle des pays riches affichait un taux d'intérêt moyen d'un peu moins de 4%, contre, tenez-vous bien, 0,3% aujourd'hui. Ce sont les chiffres de The Economist cette semaine. Le poids de leur bilan s'est aussi considérablement alourdi. Celui de la réserve fédérale américaine étant par exemple, tenez-vous bien, passé de 800 à 4500 milliards. Les gouvernements des pays riches ne sont pas tellement mieux lotis. La plupart d'entre eux sont encore aux prises avec d'importants déficits budgétaires et leurs dettes ont grossi en moyenne de plus de 50% depuis la grande récession. Il n'y a plus à espérer maintenant que la prochaine crise n'arrivera pas tout de suite. Je suis désolé de vous avoir lu un article vraiment pessimiste, mais fort bien construit et assez bien documenté, qui vient prendre exactement l'opposé du texte sur les optimismes des prix Nobel d'économie.
Oui, je m'y m'accorde.
Allez, à mon tour de faire preuve de cet optimiste pessimiste ou l'inverse ou de réalisme, je ne sais pas. Un autre texte de Guy Taillefer, éditorialiste au Devoir. Guy Taillefer, à qui j'envisage de présenter une de mes sœurs parce qu'il me semble qu'on ferait des beaux frères exceptionnels. Alors, Guy Taillefer signe un texte intitulé « Une droite à abattre » le 13 juillet 2015. Après Jeb Bush et Donald Trump, ce bouffon dangereux, le cercle du cirque qui est la course républicaine à l'investiture présidentielle s'agrandit encore avec la candidature de Scott Walker, gouverneur du Wisconsin, qui doit officiellement lancer sa campagne ce lundi. Anti-syndical dans l'âme, proche du Tea Party, Scott Walker incarne ce que la droite américaine a de plus pernicieux. Scott Walker a été élu 3 fois gouverneur de l'État depuis 2010, d'abord avec l'appui des syndicats de travailleurs, puis en les divisant entre eux sans que cela n'entame vraiment ses majorités électorales. Il vient de faire du Wisconsin le 25e État à adopter, une loi sur le droit de travailler, Right to Work, en vertu de laquelle il devient interdit pour un syndicat d'exiger des employés d'une entreprise qu'il paie des cotisations. Eh oui, ça s'appelle le droit de travailler pour lui. Le nom de la loi est un leurre. Au nom de la liberté de choix, elle vise clairement à démolir le pouvoir de négociation collective des organisations syndicales. Les 24 autres États qui ont adopté le régime du Right to Work sont généralement républicains et la plupart sont situés dans le sud du pays où n'existe pas vraiment de tradition syndicale. Au départ, la promotion du Right to Work fut d'ailleurs portée dans les années 40 par un activiste suprémaciste, pour lequel la syndicalisation avait l'horrible défaut d'encourager la mixité raciale. Le Right to Work s'est répandu dans les années 50 et 60 dans le contexte de l'anticommunisme primaire de l'époque. Le Wisconsin, pourtant berceau du syndicalisme américain et foyer de résistance sociale, les manifestations qui ont eu lieu en 2011 à Madison ont préparé le terrain à Occupy Wall Street, est l'un des 3 États à avoir récemment réussi à faire appliquer le mensonge qui consiste à faire passer une mesure manifestement antisyndicale pour une amélioration des droits des travailleurs, un facteur de création d'emplois et un progrès démocratique. C'est en quelque sorte la quadrature du cercle par laquelle M. Walker pourra reproduire l'arnaque qui permet aux politiciens de tous bords de se présenter comme les défenseurs de la classe moyenne. La diabolisation du syndicalisme par les élites politiques et économiques a fait son œuvre ces dernières décennies. Le monde syndical a connu des dérives qui ont fait le reste pour noircir sa réputation, avec le résultat que le taux de syndicalisation aux États-Unis a chuté du tiers depuis 50 ans à seulement 11%. Il se trouve que, selon un récent sondage Gallup, 53% des Américains continuent quand même d'approuver le rôle des syndicats. En même temps, et voici où le cercle touche à la quadrature, qu'ils sont favorables au Right to Work dans une proportion supérieure à 70%, comme quoi les projets de loi ont été bien vendus à la population. Ce qui explique que M. Walker ait chaque fois été élu grâce à l'appui significatif d'électeurs qui étaient syndiqués. Avec M. Walker, ils seront maintenant 15 à briguer l'investiture présidentielle du Parti républicain. Il n'a que 48 ans, sa carrière politique est malheureusement loin d'être terminée. Sa candidature à la bénédiction des frères Charles et David Koch, multimilliardaire ultra-conservateur et ultra-capitaliste, climato-sceptique et opposé à l'Obamacare. Ils ont fondé les organisations de droite Cato Institute et American for Prosperity, cette dernière étant étroitement liée au Tea Party, mouvement républicain et libertarien. M. Walker ira, avec bien d'autres, disséminer l'imposture qui veut que la mondialisation et les accords de libre-échange soient par essence des facteurs de progrès pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Les syndicats représentent avant tout pour cette droite machiavélique un contre-pouvoir et un frein à la croissance des profits. Pleuvent les études démontrant que l'application du Right to Work ne débouche pas sur des gains économiques notables et qu'elle fait pression à la baisse sur les salaires de tous les travailleurs syndiqués ou non, comme si besoin était d'études. Les travaux récents de 2 économistes du FMI ont établi que la diminution du taux de syndicalisation dans les économies développées contribue à enrichir une minorité et à creuser les inégalités sociales, pendant qu'aux États-Unis, entre 1979 et 2014, le produit intérieur brut a cru de 150% et la productivité de 75%. L'Economic Policy Institute, qui penche à gauche, a établi de son côté que la stagnation des salaires que l'on observe depuis plus de 20 ans était principalement attribuable à la déliquescence des droits de négociation collective. La tromperie peut-elle être plus claire? Il n'y a pas de dialogue possible avec cette droite-là. Et pourquoi je vous ai lu ce texte-là? Eh bien, parce qu'au Canada, au moment où on se parle, le gouvernement conservateur envisage de couper les ailes des syndicats, les privant de participation aux campagnes électorales, par exemple, parce que ce n'est pas leur mandat, bien sûr. Ils doivent se contenter de représenter les travailleurs dans le cadre des conventions collectives. On peut se demander justement où on s'en va.
On n'a pas voté pour travailler plus.
Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît.
On n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus? Pour gagner plus, j'ai pas décidé de travailler plus pour gagner.
Je pensais que le monde allait changer, que le temps libre, être libéré, avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer, que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice.
Il y a du vice,
je pense trop, mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu, le gros bateau qu'a acheté mon patron. Moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot.
Plus pour gagner plus, j'ai pas décidé de travailler plus.
Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination.
Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir, si comme des ânes on va bosser et ne rien dire.
Je pense que le boss passe bien à la télé, mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi
de travailler plus pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus.
Trio qui chantait « Travailler plus ». Eh bien, travailler plus, oui, mais pour payer plus d'impôts, quel bonheur. Est-ce que c'est vrai?
Oui, alors, payer des impôts, c'est une très bonne chose, on le sait, c'est le fondement de la démocratie. Et j'ai été chercher dans la tribune l'opinion, non pas d'un journaliste, mais d'un professeur de l'Université Columbia, qui s'appelle M. José Antonio Campo, et qui nous appelle tous à réfléchir sur la façon de combattre plus efficacement l'optimisation fiscale. J'adore ce mot merveilleux qui est d'une hypocrisie absolument terrifiante et qui signifie tout simplement trouver tous les moyens de ne pas payer. Et quand ils sont légaux, c'est encore meilleur. C'est encore plus infect en réalité. Je crois que on peut difficilement avoir un autre point de vue.
C'est profiter du fait que dans le droit pénal, généralement admis un peu partout sur Terre, on n'est pas coupable à moins qu'on ait prouvé hors de tout doute raisonnable qu'on a commis un crime, alors on se tient toujours à la limite.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut utiliser le point de vue socratique, il vaut mieux laisser en liberté un coupable que punir un innocent, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'imposition, on peut peut-être avoir d'autres critères moins humanistes et terriblement rigoureux. Alors je vous lis cet article, enfin cette opinion, cette tribune. Le plus gros problème du système actuel est qu'en taxant les filiales de multinationales comme autant d'entités distinctes, il laisse beaucoup de champs libres aux entreprises mondiales pour esquiver leurs obligations fiscales. Les efforts de réforme dirigés par l'OCDE à la demande du G20 représentent des tentatives louables de s'attaquer à ce qu'on appelle l'érosion de l'assiette fiscale et les transferts artificiels de bénéfices. Ah, j'adore, toutes ces formulations sont merveilleuses. On dirait presque de la poésie, poésie fiscale, cherchez l'erreur. Le plus significatif de l'initiative de l'OCDE figure dans ces nouvelles exigences de déclaration pays par pays qui obligent les multinationales à fournir chaque année des informations globales dans chaque juridiction où elles ont une activité en rapport avec l'attribution mondiale de revenus et avec les impôts payés. Elles doivent également fournir des informations sur les entités qui font des affaires sur chaque territoire, ainsi que sur les activités économiques auxquelles elles participent. Mais un tel mode de déclaration s'appliquera seulement aux entités ayant des revenus supérieurs à 750 millions d'euros. Ça fait 850 millions de dollars à peu près.
Alors, vous pouvez vous attendre à ce que les filiales internationales soient divisées en de multiples entités qui font à peu près 700 millions de chiffres d'affaires.
Voilà, vous avez tout compris. Et ne sera pas rendu public. En outre, les pays doivent se conformer à certaines conditions d'accès à l'information, une structure qui ne bénéficiera pas à la plupart des pays en voie de développement. L'enjeu des pays en développement, 100 milliards de dollars perdus. Hein? Excusez-moi. Pourtant, c'est dans les pays en voie de développement que l'enjeu est le plus important. En effet, le Fonds monétaire international a récemment signalé que les pays en voie de développement perdent une part trois fois plus grande de leurs revenus par l'impôt sur les sociétés suite aux activités de BEPS par rapport à leurs homologues des pays développés. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, de telles activités de la part des multinationales, qui représentent un tiers de la base potentielle d'impôt sur les sociétés dans les pays en voie de développement, entraînent des pertes annuelles de l'ordre de 100 milliards de dollars. Ayez en tête les 175 milliards de dollars de dette de la Grèce et mettez-les en rapport avec ce genre de chiffres. Étant donné le rôle majeur que les recettes fiscales jouent dans le financement des efforts de développement, en fournissant deux tiers du financement des objectifs de développement du millénaire des Nations Unies, l'aide publique et les apports privés couvrant le reste, il faut stopper cette hémorragie. Les dirigeants du monde se préparent ce mois-ci à la conférence internationale sur le financement du développement à Addis Abeba, où ils vont développer une stratégie visant à financer le programme de développement mondial après 2015. Aussi, on espère qu'ils penseront à la Grèce. Une telle évolution vers un système plus efficace et plus efficable et plus équitable de fiscalité mondiale ne saurait être plus urgente. C'est pourquoi un groupe d'intellectuels du monde entier a été créé par la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité des entreprises internationales. Nous pensons que le monde a une occasion sans précédent d'unir ses efforts dans une réforme significative du système international de fiscalité des entreprises au service de l'intérêt public mondial plutôt qu'au service de l'avantage national. Je ne sais pas si cet organisme qui est né récemment aura un avenir, mais moi je pense qu'il faut saluer ce genre d'initiative, ce genre de réaction par des gens responsables et compétents pour proposer une autre façon de penser. C'est la même démarche que celle d'Attali, par exemple, quand il a créé il y a quelques décennies le microcrédit qui aujourd'hui est présent dans une trentaine de pays, je crois, et aide des dizaines de milliers de personnes. Je pense que ce genre de choses, c'est pas seulement... Alors on peut dire, oui, c'est une goutte d'eau. D'abord, c'est une goutte d'eau qui change énormément de choses pour les gens qui en bénéficient. Mais ensuite, c'est une invitation à repenser les choses. C'est une invitation, je recite Adorno, que je citais la semaine dernière, « Il faut apprendre à penser contre soi-même ». Pardon pour cette longue digression, je reprends l'article. Pour pousser les dirigeants du monde à tirer profit de cette occasion, l'ICRICT, c'est l'organisme que je viens, la fameuse commission indépendante pour la réforme de la fiscalité, a publié une série de recommandations visant à réformer les règles et les institutions en charge de la fiscalité des entreprises internationales. Les propositions comprennent un impôt minimum sur les sociétés agréées par les pays développés, ainsi que des mécanismes pour empêcher des multinationales de transférer leurs bénéfices vers des filiales situées dans des juridictions à faible fiscalité. Tout ça revenant à dire, on sait parfaitement ce qu'il faut faire, c'est relativement simple, c'est simplement du bon sens, il manque juste un tout petit truc là. Comment ça s'appelle ? Ah oui, la volonté politique. En outre, contrairement aux réformes de l'OCDE, l'ICRICT recommande la déclaration publique par les multinationales des impôts payés dans toutes les juridictions. Et à plus long terme, notre organisme demande une transition vers un système dans lequel les multinationales seront imposées au titre d'une seule et même entité, avec des contributions allouées aux différents pays dans lesquels elles fonctionnent selon une formule convenue. À ma connaissance, je crois qu'un citoyen américain, s'il a un compte en Suisse ou des activités au Guatemala, il paye tout aux États-Unis. C'est un peu la même logique.
Il peut être doublement imposé, c'est-à-dire qu'il peut payer des impôts au Guatemala. Oui. C'est juste que le gouvernement américain, en l'absence d'un traité de réciprocité, va le double facturer, c'est-à-dire qu'il va l'imposer aux États-Unis pendant que le Guatemala l'impose au Guatemala.
Ce qui prouve bien qu'on ne peut pas arguer d'un vide juridique pour échapper à l'impôt, si on le veut. Et là, la volonté politique, eh bien, elle est en action. Ce forum sur la fiscalité, représentatif à l'échelle mondiale, servirait non seulement de point de rendez-vous pour la coopération intergouvernementale, mais il pourrait également favoriser un débat plus large et plus complet sur la réforme fiscale. Depuis trop longtemps, ce type de discussion a été le domaine réservé de négociations à huis clos entre gouvernements et grandes sociétés, le sujet étant considéré comme trop technique pour le grand public. Tu parles. Bon, tu parles, c'est moi, hein. Pardon, c'était pas écrit. La fiscalité est en soi un sujet politique qui implique les notions d'égalité, de justice et de bien commun. En effet, les questions de fiscalité sont au cœur de la création des parlements démocratiques modernes. Une question ayant des conséquences à longue portée ne doit pas être discutée en secret. Si les dirigeants du monde prennent au sérieux la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté, ils doivent s'engager à créer un système fiscal juste et transparent. Il faut espérer que ce mois-ci, à Addis Abeba, ils prendront des mesures crédibles dans ce sens. Eh bien, on a eu un article très positif au début, un article désastreux pour ce qui me concerne au milieu. Eh bien, celui-là renoue avec cette volonté d'optimiste. Et même si Bernanos nous dit qu'un optimisme, c'est jamais qu'un imbécile heureux à côté d'un pessimiste qui n'est lui qu'un imbécile malheureux, eh bien, essayons quand même d'espérer un peu quelque chose de mieux.
Alors, on me dit qu'il nous reste 5 minutes pour parler brièvement de plusieurs sujets. Je commence tout de suite en vous parlant du 2$ canadien à qui l'on vient de découvrir un jumeau. C'est pas encore inquiétant, mais oui, il existe. Sachez que la pièce de 10 pesos dominicaine a exactement la même forme que le 2$ canadien et fait des deux mêmes métaux que le dollar canadien et a le même donc format que le dollar canadien, sauf qu'elle vaut 28 cents actuellement au cours du pesos. Donc, si vous voulez payer un parcomètre de manière illégale, il se pourrait que vous soyez tenté, en revenant de République dominicaine, de mettre des pesos dans la machine au lieu de dollar canadien. Et la faute revient à qui? Eh bien, ça revient à la monnaie royale canadienne qui fabrique pour le compte de la République dominicaine les pièces de 10 pesos.
Ah, c'est ce qui s'appelle arrondir ses fins de mois.
Oui, je ne vous dis pas de le faire, évidemment, c'est une fraude, c'est criminel.
Oui, alors vraiment, bon, allez, tentation, éloigne-toi. Savez-vous, cher François, combien faudrait-il mettre sur la table pour éradiquer la faim dans le monde, qui est quand même un beau projet en soi?
Oh, je dirais un demi-point de PIB.
Oui, oui, alors du PIB du monde entier,
oui.
Un peu moins, 0,3%. Hein? C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 0,3% du PIB mondial? Ça fait juste 160$ par an et par personne. Écoutez, hein, franchement, moi, je veux bien les mettre tout de suite et qu'on s'y mette tous et puis qu'on arrête. Hein.
Une bonne nouvelle et peut-être inquiétante aussi, la Terre va connaître une pause. Je vous en parle parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique et de ses effets à cette émission. Il y avait notamment une autre nouvelle cette semaine qui disait que le niveau des océans pourrait monter de 6 mètres d'ici un siècle. Ça veut dire de l'eau salée à trois rivières pour vous donner une idée du niveau de l'océan. La Terre donc va connaître une pause puisque le Soleil devra entrer dans un cycle exceptionnellement froid pendant une dizaine d'années sous peu, ce qui devrait laisser une pause pour le réchauffement de la planète. Malheureusement, ça risque aussi d'encourager les climato-sceptiques qui nient le problème alors qu'il s'agit d'une simple phase.
Oui. Écoutez, moi, je vais vous faire pleurer sur les compagnies de tabac. Bon, je sais, vous n'allez pas y arriver. Figurez-vous que les trois géants du tabac, Imperial Tobacco, Rothman, B&H et GTI McDonald, ont été condamnés récemment, vous l'avez peut-être encore en mémoire, au Québec, hein, à payer 15 milliards de dollars quand même pour des gens qui avaient fait un procès à la suite d'un cancer. Eh bien, les malheureux sont venus pleurer en cour en disant qu'ils n'avaient pas d'argent, figurez-vous. Ce sont des pauvres. Et donc, on demande une grande indulgence par manque de moyens. On n'est pas ému.
Mais... Depuis que j'anime cette émission, on parle sans cesse de nouveaux traités de libre-échange et on voit que c'est compliqué. Les provinces s'en mêlent, les agriculteurs montent au créneau, les producteurs de bois sont inquiets, les pêcheurs se demandent ce qui arrive des pêcheries. Voilà, c'est très, très complexe. Et bref, par exemple, avec l'Europe, l'AECG n'est pas encore paraffée. Ça fait quoi, 3 ou 4 ans qu'on en parle? Eh bien, sachez que pendant que personne regardait, on a signé un traité de libre-échange avec l'Ukraine. Ça s'est fait très rapidement. Tout le monde est d'accord. Ils vont pouvoir vendre 99% de leur matériel chez nous libre de douane. Et pour nous, c'est à peu près 86% en Ukraine. Le gouvernement fédéral a signé, les provinces n'ont rien à dire, pas de manifestation. Pourquoi ça s'est fait si vite? Eh bien, il y a 1 million de votes ukrainiens dans l'ouest du pays. Voilà, c'est dit.
Si vous allez à Québec, ces temps-ci, vous aurez peut-être la possibilité de prendre les nouveaux bus. Eh bien, figurez-vous que ce sont des autobus maintenant hybrides, moins polluants, plus silencieux, un peu plus chers.
Je me permets de vous reprendre. C'est la commission de la capitale nationale, mais à Gatineau et à Ottawa, on considère que la capitale est nationale, alors que c'est pas Québec.
D'accord. Ah, bon, d'accord. Eh bien, j'ai fait une bêtise, comme d'habitude. Voilà. J'espère que le juge de la citoyenneté n'écoute pas l'émission.
En France, on a évalué le coût de la pollution de l'air. Et combien pensez-vous que ça coûte chaque année à l'économie française d'avoir un air pollué? 140 milliards par an. Les coûts sont évidemment des coûts de santé publique, mais aussi, par exemple, des coûts sur la production agricole, puisqu'il y a moins de soleil qui passe, que l'air est de plus mauvaise qualité. Voilà. Alors, à réfléchir.
Je reste dans les transports en commun pour vous signaler que, alors cette fois je suis sûr de ce que je dis, la Société des Transports de Montréal a lancé sur le marché un petit rechargeur de carte puce. Et je peux vous dire, je l'ai acquis et ça marche très bien et c'est pas cher et c'est très pratique, $15.
Et voilà l'indicatif qui nous signale que oui, cette émission est terminée. Merci d'avoir été avec nous au cours de la dernière heure. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles en économie et en emploi. On remercie également Rémi Hermoso pour sa direction sagace, son autorité de tous les instants et son exceptionnelle acuité dans ses choix musicaux. Voilà, à la semaine prochaine.